Pour ce matin, je vous propose d'entendre un texte qui est rarement lu au cours du culte. C'est la prière du prophète Habacuc, au chapitre 3 de son livre. Alors c'est toujours un peu gênant d'entendre la prière de quelqu'un d'autre, car la prière devrait rester finalement quelque chose d'infiniment intime pour pouvoir rester vraiment sincère. Mais là, bien entendu, c'est une prière qu'Habacuc a rédigée comme une prédication sous forme de prière, et donc c'est un texte finalement tout en un qui nous propose de réfléchir sur une théologie, sur une relation à Dieu, et en même temps ce texte nous encourage à nous-mêmes entrer dans la prière. Alors je vais vous lire au chapitre 3 d'Habacuc les deux premiers versets et puis ensuite les versets 16 à 9. Prière du prophète Habacuc sur le mode des complaintes. J'ai entendu ta réputation et j'ai eu de la crainte devant ton action éternelle. Fais vivre ton œuvre dans le cours des années. Oui, dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, tu te souviendras de ta tendresse. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À ce bruit, mes lèvres ont tremblé, mes os se dissolvent, et sans bouger, je frémis d'attendre le jour de la détresse, le jour où notre assaillant montera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes, la production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, point de gros bétail dans les étables, mais moi j'exulterai en l'Éternel. Je trouverai mon allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des chamois. Il me fait cheminer sur les hauteurs. Et puis, quelques pages plus loin, dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 3 aussi, la fin de ce livre de Sophonie. C'est l'Éternel qui parle. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Lance des chants d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Car l'Éternel a écarté de toi ses jugements. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Il est au-dedans de toi. Tu n'as plus de malheur à avoir. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Sois sans crainte, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est au-dedans de toi. Il est un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire notre vie de tous les jours. Amen. Et je vous propose de chanter pour commencer à dire notre louange à Dieu pour ses bienfaits, de chanter le cantique 172 dans le petit recueil « Célébrons l'Éternel, notre Dieu, notre seul Père ». Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta dynamique de vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement la goûter, mais la mettre en pratique. Et pour cela, ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'étrange dans cette prière d'Abacuc, c'est que quand il dit « Je me réjouis en l'Éternel, je me réjouis dans le Dieu de mon salut », quand Abacuc dit cela, il vient de dire « Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, plus d'olives ni de blé, adieu veaux, vaches, cochons, couvées ». Alors de quoi est-ce qu'Abacuc remercie Dieu si tout va ainsi de travers et s'il manque de tout ? Eh bien, avec ce merci d'Abacuc, nous sommes dans la grâce pure. Abacuc remercie Dieu simplement d'exister. Il le remercie gratuitement. Et ça, c'est fondamental, je crois. Ce merci-là, c'est quelque chose qui ressuscite. Dans la Bible, normalement, le propre de Dieu, c'est de nous donner des figues, des raisins, du pain, des olives, de l'abondance dans notre vie. Il s'agit là d'images bien connues sur ce que Dieu apporte réellement à la vie de l'homme. Le figuier évoque dans ce contexte la lecture et l'interprétation de la Bible. Et donc, on s'attendrait finalement à ce qu'Abacuc remercie Dieu de l'avoir éclairé dans sa philosophie, dans sa recherche de théologie, sa recherche d'une bonne éthique, ou bien qu'il demande à Dieu de bénir sa recherche théologique, morale, biblique, éthique. Qu'il la rende productive, cette recherche de sagesse et de vie. Et nous faisons, oui, ces prières pendant le culte et peut-être même chaque jour. Et c'est la moindre des choses de dire merci à ceux qui nous ont fait un cadeau. Et donc, il est juste de remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Le fait qu'il ait pu donner de bonnes figues, oui, dans notre recherche de sagesse. Mais la prière d'Abacuc est ici de l'ordre de la grâce pure. Il remercie Dieu même en l'absence de fruits, même s'il n'y en avait pas eu et même s'il n'y en avait pas à attendre, car il y a des moments difficiles, bien sûr. Il remercie Dieu car sa simple existence le remplit de joie. Et ce merci d'Abacuc nous apprend ce que c'est que la grâce pure, la grâce qui est à la base de tout, à mon avis. Le deuxième exemple que donne Abacuc, c'est la vigne. Alors c'est une image bien plus connue encore dans la Bible. La vigne évoque dans la Bible ce que produit notre existence quand il y a une bonne union, une bonne collaboration entre l'action de Dieu et l'activité humaine. La vendange est dans la Bible l'image du jugement de Dieu, un jugement qui garde le meilleur de chacun de nous et puis qui rejette ce qui est de l'ordre du pas mangeable dans le pressoir. Et sous l'action de son esprit, le bon jus, ce qu'il y a de meilleur de nous-mêmes, devient du vin, pétillant de joie et de vie éternelle, d'abondance. Habacuc nous apprend donc à remercier Dieu, même en dehors de tous ses bienfaits passés, tous les bienfaits présents, et même tous les bienfaits futurs de l'action de Dieu dans notre vie, même s'il n'y avait pas, finalement, de vie éternelle pour nous. Ça, c'est vivre de la grâce. Alors, comme le dit Olivia Bell, qui le tire de Calvin, le centre du centre de la foi, c'est l'insouci de soi. Ne pas se soucier de soi. Alors, je suis d'accord au sens où cela veut dire que la grâce de Dieu, la confiance que nous avons en lui, nous permet de laisser tomber le souci en ce qui concerne notre vie future, la vie éternelle, comme Habacuc le fait dans cette prière. La grâce de Dieu nous permet de dépasser aussi, oui, notre égoïsme, l'espérance juste et légitime que nous avons de fruits pour nous-mêmes. Mais il ne faut pas exagérer, à mon avis, cet insouci de soi. Que ça ne tourne pas à l'idée du sacrifice de soi-même, car la grâce, ce n'est pas ça. La grâce, c'est de l'ordre de la qualité de la relation, finalement. Et si une des deux personnes qui sont en relation s'anéantit elle-même, la relation est atteinte, à mon avis, dans quelque chose d'essentiel. Et donc la grâce, ce n'est pas ça. L'Évangile n'appelle pas au sacrifice de soi, ni à l'oubli de soi-même. Au contraire, à mon avis, vivre de la grâce de Dieu, ce n'est pas se sacrifier soi-même. La grâce, elle est profondément, je crois, présente dans ces paroles du Christ que nous rappelons souvent lors de l'institution de la scène. « Voici mon corps donné pour vous. » Le Christ ne donne pas son corps pour donner son corps. Il ne s'agit pas de se perdre ni de se diluer en Dieu ou de se diluer dans le monde, de se donner. Il ne s'agit pas de se sacrifier pour se sacrifier. La grâce n'est pas dans le « donner son corps » du Christ. La grâce, elle est dans le « pour vous ». La grâce, elle est quelque chose, oui, de fondamental, qui est de l'ordre de la relation à l'autre. Et donc, le « moi, je me réjouis en l'éternel » que dit Habacuc, il y a bien là quelque chose de fondamentalement qui est de l'ordre de la grâce. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une qualité profonde de relation. Et c'est cet attachement qui anime le geste du Christ. Et par son geste qui va jusqu'à donner son corps, oui, il nous montre que vraiment Dieu place son bonheur en chacun de nous, dans notre simple existence. Le Christ n'est pas dans l'insouci de soi quand il donne sa vie. Oh que non! Il pleure d'angoisse, de soif de vivre en donnant sa vie. Mais que faire? De tragiques circonstances font que le « pour vous » implique à ce moment-là, pour le Christ, le donner son corps. C'est parfois le cas aussi pour des pompiers, pour une mère de famille, c'est le cas pour des personnes qui, oui, dans le service de l'autre, sont amenées à donner leur vie, et ça ne les amuse pas non plus, mais ils le font parfois. Il y a donc certainement une part de grâce dans le service de l'autre, même dans les petits services, quand nous ne sommes pas obligés, heureusement, de donner notre vie au point d'en mourir. Mais il y a là quelque chose, oui, qui nous appelle à donner de nous-mêmes, et il y a là une grâce. Le Christ nous y invite dans les évangiles, en particulier dans l'évangile selon Jean, où Jésus nous conseille d'être serviteurs les uns des autres. Nous sommes invités, comme le suggère Habacuc, à être des oliviers portant des bons fruits de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous sommes appelés à être le berger des brebis, comme nous le rappelle Habacuc, le berger de ceux qui nous sont confiés. Et nous espérons bien que Dieu va nous aider pour que nous soyons à la hauteur de ses services. Alors il y a une part de grâce, c'est vrai, dans le service de l'autre, dans le service que le Christ accomplit pour nous en se donnant. Et il y a aussi une part de grâce, je crois, dans le fait d'accepter un service que l'autre nous rend. Mais dans le service rendu et le service accepté, la grâce n'est pas totale, finalement. Car le geste du service a l'idée d'être utile. Et dans le fait d'être utile, on est dans un certain sens un peu déjà remboursé par, euh, par une certaine efficacité de notre geste. Et le bénéficiaire, lui, il est récompensé de son humilité par le bénéfice qu'il retire du service. Alors oui, il y a une belle part de grâce dans le fait de faire un geste libre, de donner de son temps, de son avoir, de son être, de son bon argent, de ses efforts pour faire avancer les autres. Et puis, il y a une part de grâce aussi quand le bénéficiaire remercie l'autre, car rien ne l'oblige à remercier, nous le savons bien. Il y a donc une part de grâce dans la simple gratitude, même si là aussi, finalement, c'est plutôt une simple justice ou c'est simplement de la bonne éducation que de dire merci quand on a reçu quelque chose. Et pourtant, il y a dans la gratitude, je crois, encore un peu plus de grâce que dans le service. Car la gratitude, quand elle est faite par le bon cœur, la gratitude travaille dans le champ de la qualité de la relation, de la qualité d'être, plus encore même que le service, finalement. Mais avec cette prière d'Habacuc, on est encore au-delà, finalement, du service, encore plus dans la grâce que dans le service, encore plus dans la grâce que dans le merci, dans la gratitude pour quelque chose qu'on a reçu. Nous sommes dans une grâce plus pure, plus essentielle. Habacuc remercie Dieu simplement dans le fait qu'il existe. C'est ça qui fait sa joie. Et selon les paroles de Sophonie, l'Éternel fait de nous sa plus grande joie. Il a pour nous des transports d'allégresse. Alors même que les humains n'ont pas spécialement brillé dans leur qualité, ni dans leur fidélité, ni par leur vie juste, ni par leur gratitude. Oui, il y a une part de grâce dans le service de l'autre. Oui, il y a une part de grâce dans la gratitude, dans le merci pour ce que nous a fait l'autre. Il y a une part de grâce dans la qualité de relation qui se tisse entre les êtres humains ou entre une personne et son Dieu pour mieux se comprendre, pour mieux cheminer ensemble. Mais là, avec la prière d'Habacuc et dans cette bénédiction que nous dit Sophonie, nous sommes dans la grâce pure, en se réjouissant simplement que l'autre existe. Cela dit, la dignité profonde de l'autre, sa seule existence est en elle-même, pour elle-même, une source de joie. D'une vraie joie qui ne peut se taire et qui peut s'exprimer sans arrière-pensée, sans bénéfice recherché, juste comme un cri ou comme un chant. Ça, c'est vraiment de l'ordre de la grâce. Et c'est cette grâce-là, je crois, qui ressuscite. Elle met l'accent sur ce qui est la profondeur même de l'être. Elle met l'accent sur ce qui permet le service juste et le remerciement juste. C'est cette grâce-là qui, effectivement, va permettre d'avoir ensuite une vraie relation avec l'autre, que ce soit avec Dieu et avec notre prochain. Nous ne sommes plus alors comme des ouvriers à la chaîne dans une usine, mais nous sommes de véritables personnes, et même des personnes qui sont importantes les unes pour les autres. C'est cette grâce-là qui va permettre de rendre un service tout en respectant l'autre, alors qu'en le rendant service, on se place au-dessus de lui. C'est cette grâce qui nous affranchit de la logique de la dette, du don et du contre-don obligatoire. C'est cette grâce qui permet d'aimer et respecter l'autre, même unilatéralement, même si l'on pense devoir combattre le mal qu'il fait. Oui, prendre en compte la simple existence de l'autre comme vraiment précieuse, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et l'exprimer. C'est cette grâce-là qui rend possible d'aimer un ennemi et de lui faire du bien, si possible, comme le suggère Jésus, et comme le fait Dieu pour chacun d'entre nous, bien sûr. C'est ce merci d'exister, à mon avis, qui donne sens et qui donne vie à la moindre des choses. Oui, notre seule et simple existence est une joie pour Dieu, comme le dit Sophonie, et comme le montre le Christ en donnant sa vie. Il fait de chacun de nous sa plus grande joie. Il garde silence quand il le faut. « Par amour », nous dit Sophonie, « et il a pour nous des transports d'allégresse. Même si le figuier de notre sagesse est bien loin de produire des fruits féconds, Il n'y a même pas de fleurs encore, nous dit Sophonie. Mais, nous dit Habacuc. Même si la vigne de notre existence ne produit pas tellement de raisins, même si nous sommes comme un olivier aux trois quarts gelé, qui peine à être la source de la moindre bénédiction, même si nous nous occupons bien mal des brebis qui nous sont confiées, de nous-mêmes, des autres, dans un sacré gâchis, même si, et encore même si autre chose, Dieu trouve sa joie dans notre simple existence. Et c'est ça la grâce. Et oui, la grâce invite à l'insouci de soi en ce qui concerne la vie future. Faisons confiance. Cette obsession de certains croyants pour cette question de savoir comment être sauvé, qui est sauvé, est profondément en contradiction, à mon avis, avec la grâce, pour quantité de raisons. D'abord, des prophètes comme Habacuc et Sophonie et bien d'autres nous ont dit que c'est ce que c'est que la grâce de Dieu. Et le Christ nous l'a montré. Nous pouvons donc avoir confiance en Dieu. Il n'a pas besoin, comme le génie de la lampe d'Aladin, qu'on fasse briller sa lampe à coups de chiffonnette, de bonnes œuvres, de bonnes prières, pour que Dieu exauce enfin nos prières et réponde à nos besoins. Ça ne marche pas comme ça. Et puis se préoccuper de son petit paradis, de sa petite vie future, essayer de bien prier Dieu, de bien croire ce qu'on devrait croire, de bien faire ce qu'on devrait faire, tout cela pour gagner son paradis, c'est une motivation en fait égocentrique. Et ce sont des actes qui sont basés sur un calcul encore, pas sur l'amour, pas sur la grâce. Donc tout cela est l'exact inverse de la grâce. Donc oui, on peut avoir de l'insouci de soi en ce qui concerne la vie future. Et puis cette question de la vie future, à mon avis, ce n'est pas une question pertinente pour le temps présent. À chaque jour suffit sa question. Et celle d'aujourd'hui, c'est de vivre en ce monde la vie que nous avons, cette existence que Dieu aime et que Dieu bénit, auquel Dieu trouve un prix infini. Et la grâce, oui, peut nous y aider, je crois. Alors beaucoup de personnes se demandent quel est le sens de leur vie. Autre grande question. La grâce nous montre que le sens de notre vie, il est de trouver finalement quel est le sens que nous choisirons de lui donner. Notre existence, elle a de toute façon un prix infini. Elle est un sujet de joie pour Dieu. Elle est un sujet de joie pour ceux qui nous aiment. Elle est un sujet de joie pour ceux qui savent ce que c'est en fait que la vie. Notre existence nous est donnée comme une feuille donnée à un peintre, à un poète, à un philosophe ou à un mathématicien pour qu'il y inscrive les traces de sa propre créativité selon ce qu'il a à cœur d'offrir, alors par grâce. Et donc c'est à nous de dire quel est le sens que nous donnons à notre vie. Comme Habacuc et comme l'Éternel, cette chose-là, cette idée-là, et toi, cette personne que tu es, voilà ce qui est pour moi, aujourd'hui et maintenant, ma joie. C'est cela que nous pouvons écrire sur les pages de notre vie. Il ne s'agit donc pas d'être dans l'insouci de soi, dans le domaine de notre existence présente. Il est bon, au contraire, de saisir et d'aimer cette grâce qui nous est faite, de saisir cette dignité extraordinaire que nous avons par l'amour et par la grâce, de la goûter, de lui accorder du poids, et de sentir cette liberté, cette beauté extraordinaire couvre la grâce dans notre existence en lui donnant un prix sans condition. Nous pouvons alors vivre plus légèrement en sachant que chacune de nos journées vaut de toute façon son pesant de grâce. Mais avec, oui, un certain peut-être tremblement aussi de joie et d'émotion. Quel service inventerons-nous? Quelle gratitude nous viendra à cœur? Quelle joie pure allons-nous exprimer sur la page blanche de notre journée? Quel oui à telle personne pourrons-nous alors exprimer dans la grâce pure, car nous n'avons rien à prouver, rien à acheter? Nous pourrons alors vouloir entrer, oui, en phase de production avec des services utiles, construire de vraies relations avec des actes de grâce, de service, ou des merci, des gratitudes pour quelque chose qui nous a apporté. Mais une gratitude à ce moment-là qui vient vraiment du cœur, car nous n'avons rien encore à rembourser, nous ne sommes plus dans la dette. Mais il est bon, oui, d'avoir ainsi, d'entrer dans ce service et dans cette gratitude. Mais il est bon aussi de garder un temps de grâce pure. C'est comme le temps de sabbat qui nous est proposé dans le décalogue de Moïse. Il y a 6 jours pour travailler et produire, pour travailler nos figues, nos raisins, notre blé, nos huiles, veiller sur nos brebis, nos troupeaux, mais il est bon de garder un côté, une part, comme un 7e jour, que ce soit comme un temps de sabbat, un temps d'ouverture à cette grâce, un temps où nous mettons notre joie dans l'Éternel, en dehors de toute idée de bénéfice ou d'utilité, de production, un temps où nous contemplons l'existence des autres, où nous contemplons l'existence de ce monde et l'existence de Dieu, simplement pour les aimer et nous en réjouir, et de leur dire « Merci d'exister, tu es pour moi un sujet de joie, tu es pour moi une force », et de nous laisser aimer tels que nous sommes, pour ce que nous sommes. Ce pouvoir d'être source de résurrection et de vie est dans notre bouche, dans nos mains et dans nos cœurs. Amen.